Alors, chaque fois que mon sang bout, je cours dans mon atelier chercher un petit bout de papier sur lequel il y a le numéro de là-bas, si j'y suis, 01 56 40 37 37. Alors, ce soir, mon sang bout parce que j'ai entendu que Chirac était parti en Thaïlande. Il est parti avec sa femme, sa fille, une trentaine de patrons et une petite poignée de ministres. Donc, si je comprends bien, Chirac est le représentant de commerce des patrons, donc du privé. Et c'est d'ailleurs tout ce qu'il a toujours fait jusqu'à maintenant. Donc, qui est-ce qui va payer les voyages de ces patrons qui vont faire des affaires? C'est, je suppose, la collectivité. C'est pas les patrons qui ont payé leur voyage. Donc, c'est bien tout le monde, chacun, vous, moi, qui allons payer le voyage de ces gens-là. Et quand ils vont faire des bénéfices, ces gens-là, qui est-ce qui va récupérer les bénéfices? Quels sont les actionnaires qui vont se frotter les mains, hein, quand on leur demande de partager les bénéfices? Il n'en est pas question. Et voilà. Et on est en train de se faire rouler dans la farine, encore une fois. Et c'est dégueulasse, dégueulasse, dégueulasse. Voilà pourquoi mon sang bout et pourquoi j'ai couru chercher le numéro de téléphone de là-bas si j'y suis. C'est un petit peu ma bouffée d'oxygène. Allez, j'en aurai encore à dire, mais bon, la prochaine fois. Salut, merci à tous et continuez, continuez. Au revoir.
Ah ben, je suis déçu. Oui, vraiment déçu. C'est vraiment la décadence. Il y a 20 ans, le gouvernement avait su arrêter pile poil sur la frontière, alors inviolable, le nuage de Tchernobyl. Je revois à la télé le responsable EDF avec son petit dessin et le nuage miraculeusement bloqué pile sur les pointillés de la frontière. Chapeau l'artiste. Et aujourd'hui, que vois-je? Un canard aux fréquentations incertaines, atteint d'une grippe avéré aviaire, vient chercher tombe dans les dombes, traversant une frontière devenue gruyère. Alors je pose la question. Malgré Superman Sarko, nous ne sommes pas protégés. Contre tout. Est-ce possible? Quelle misère. Salut.
Oui, bonjour Daniel et toute ton équipe. Eh bien, j'interviens parce que voilà, nous avons un canard sur toute la France, et puis toute la France en émoi. Tous les gendarmes, les barrages et compagnie, alors qu'il y a eu des multitudes d'oiseaux qui ont été mazoutés par Monsieur Desmarais. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas ce qu'il va dire, mais là, du jour au lendemain, et on n'a pas de masque, il n'y a pas assez, puis il faudrait que tout le monde se fasse vacciner, mais quelle crétinité où nous sommes arrivés. Tous ces êtres humains, c'est pas possible, ça. Et alors, il y a des gens qui fouillent pendant des journées entières sur des poubelles en Inde, partout dans le monde entier, pour essayer de manger. Et nous, on a un canard. Alors, tirez pas sur tout, parce qu'il y a un avion qui rentre d'Inde et puis de Thaïlande. Il faut pas tirer, c'est un avion. Voilà. Allez, bye bye, je vous souhaite, et puis à tout le monde, bon courage. Au revoir.
Ici, c'est José de l'Allier. Salut Daniel, il faut que je te parle. Ce qui se passe est très grave sans en avoir l'air. La canicule avait fait 15 000 morts. Le suicide en France fait 10 000 morts par an. Et la grippe aviaire, elle a fait 34 morts pour 6 milliards d'humains dans le monde. Une scientifique sur France Inter avait déclaré « En France, pas de danger, les Français ne dorment pas avec leurs poulets ». Pour le confinement, ici, tu vois, on est atterré et en colère. Le confinement dans les grandes industries du poulet, ça ne pose pas de problème. Ils sont nourris et incarcérés depuis longtemps. Les poulets seront juste privés de promenade. Mais pour des dizaines de milliers de petits élevages et particuliers, les poulets se nourrissent en liberté. Confinement égale abattage. En France, il y a des tas de petites gens qui vivent encore en autarcie avec un jardin, quelques poulets et des œufs. C'est l'assassinat d'une des dernières économies de subsistance et encore d'une dernière liberté. Au nom de quoi? D'une psychose médiatisée, d'un terrorisme dirigé à contrario, où la menace n'est plus faite de kamikazes de toute origine, mais de poulets. Je ne pense pas qu'à Paris mon message sera compris. Mais à quand l'hystérie parce qu'on aura vu un pigeon ou une hirondelle? Bientôt des gars feront de la tôle parce qu'ils auront gardé deux poulets. Aldous Huxley n'avait même pas pensé aux poulets. À quand les CRS contre les poulets? À quand la faim? de l'hystérie politique médiatique sur le dos du mépris des gens que l'on prend pour des gogos. Et je te souhaite une bonne journée, Daniel, et merci pour ton écoute. Au revoir.
Jeudi 16 février 2006, 2h15 du matin, Paris 9e arrondissement. L'immeuble est en plein soleil. Puis des tambourinements dans la porte d'une chambre au 6e étage. « Police nationale !» hurle-t-on. « Ouvrez !» Crie, bousculade. Je sors et je vois M, un de mes jeunes voisins, menotté entre deux agents de police, en t-shirt, jeans et tongs. Une jeune voisine répète aux agents, « Vous vous trompez de personne, vous vous trompez de personne. » M se retrouve au commissariat de police. On l'accuse d'avoir battu une femme, d'être ivre et d'avoir fumé du cannabis. Il grelotte, il a froid. On veut le faire souffler dans le ballon, mais il grelotte tant qu'il n'y arrive pas. Hôpital, la nuit dans un deuxième commissariat, puis mise en garde à vue. À 9h du matin, on le laisse repartir. Il demande des explications. Vous avez résisté lorsqu'on est venu vous interpeller. Vous avez outragé la police. Il n'est plus question de femmes battues, d'alcool, de drogue. Alors M est reparti sous la pluie dans sa petite chambre. Oui, c'est vrai. M ne s'est pas laissé emmener comme ça gentiment. Oui, c'est vrai. Il s'est débattu, il a hurlé, il a pleuré de rage. Oui, il a refusé qu'on mette en doute son honneur, son intégrité. Alors on l'a jeté par terre à plat ventre, un pied sur le dos pour qu'il ne bouge pas. Et on l'a menotté. Une petite précision quand même. Mais vous vous en doutez déjà, M est tunisien. Il est à Paris depuis plusieurs années, il fait des études, il travaille, il est bien élevé, serviable en un mot. C'est un bon voisin. Et moi j'ai honte qu'en 2006, on puisse venir chez vous en pleine nuit alors que vous dormez, sans aucun document de justice, mais les menottes à la main.
Voilà, hier soir, je suis sorti de chez moi, j'habite à la campagne, j'habite en Puisé, un tout petit village à la limite de Lyon et de la Nièvre, et du Loiret. Et en allant chercher une brassée de bois pour remettre dans la cheminée, car les soirées sont encore fraîches, tout d'un coup j'ai entendu un cri caractéristique que je reconnais très bien deux fois dans l'année. La dernière fois que j'ai entendu ce cri, c'était le 30 octobre, quand les grues sont reparties vers le sud, vers le soleil, vers l'Afrique. L'Afrique. Et puis, hier soir, donc, je les ai entendus, vers 18h, remonter du sud vers le nord. Eh oui, elles reviennent. Elles reviennent d'Afrique, les grues. Alors, tous aux abris ? Allez, bonne journée.
Message reçu, quelques messages reçus ici à Chittagong. Chittagong, l'Adèche. Eh ouais, j'ai trouvé l'origine de l'expression l'Adèche, être dans l'Adèche. Ça vient sans aucun doute de Bangladesh. Les famines, les guerres, les dictatures, les raz-de-marée, les épidémies, les cyclones, le terrorisme. Ils n'ont pas Sarkozy, évidemment, mais sinon, c'est un festival, le Bangladesh. Et voilà pourquoi on est là. Évidemment, on n'est pas seulement là pour tout ça, parce que derrière ces images terribles et terrifiantes et tout, il y a évidemment des Bangladais. C'est pas des Bengalis, faut pas confondre des Bengalis et des Bangladais, qui sont quelques 140 millions à vivre sur un espace à peu près grand comme entre le quart et le tiers de la France. Aujourd'hui, c'était la fête nationale, ici, une fête nationale, la fête du langage. Le langage a été le motif de la guerre d'indépendance au Bangladesh, et aujourd'hui, on célébrait cette histoire, cette raison de la, ce qui a nourri la guerre d'indépendance, l'indépendance du Bangladesh, survenue au début des années 70, c'était une affaire de langue. Alors, ils ont tout un tas de malheurs, les Bangladais, mais ils ont failli en avoir un autre, c'est le France. Le France, rebaptisé le Norway, a failli arriver ici, car Chittagong, c'est comme Alang en Inde où nous étions vendredi et samedi dernier. C'est, disons, un des chantiers, une suite de chantiers où l'on désosse les navires énormes qu'on fait échouer sur ces côtes. Et juste après le Clémenceau, le France du Norway devait arriver ici. Et puis, embrouille, complications, chantage, etc., etc. En principe, le Norway ne viendra pas. Mais il y a beaucoup d'autres navires qui sont là, beaucoup d'autres navires qui sont désossés, qui sont démolis dans des conditions épouvantables. On a rencontré quelqu'un aujourd'hui qui nous disait que à Langue, en Inde, c'était bien, parce qu'on faisait attention à tout, etc. C'est dire dans quelles conditions ces choses-là se font ici au Bangladesh. Hier, j'ai pas réussi à vous laisser un message parce que les lignes sont souvent très mauvaises ici, et puis parce qu'on bougeait beaucoup, mais j'ai quand même réussi à écouter un message, une auditrice qui disait « Je sais pas s'il faudrait pas se syndiquer, par finir par se syndiquer, ce serait quand même pas mal », elle disait ça, une idée comme ça qui lui traversait la tête. On a rencontré aujourd'hui un syndicaliste, quelqu'un qui a essayé de monter un syndicat des ouvriers des chantiers de démolition et qui nous a raconté son aventure. On est en plein 19e siècle ici, on est en plein Dickens, on est en plein Germinal. Et rétrospectivement, on se dit mais quel boulot, quel travail, quelle énergie, quel sang, quelle larme il a fallu à nos ancêtres, à nos grands-parents, pour arriver à obtenir ces droits du travail, ces acquis sociaux, comme on dit aujourd'hui, cette législation, etc. Alors qu'ici, il n'y a rigoureusement rien, c'est la barbarie, c'est la sauvagerie la plus totale, évidemment, sur des populations qui sont, dans le nord du Bangladesh, extrêmement pauvres, et qui sont d'une servilité totale. Et les histoires d'amiante, ils s'en foutent complètement. Les histoires d'environnement, ils s'en foutent complètement. La seule question, l'angoisse, c'est d'arriver à bouffer. C'est 12 heures de travail par jour minimum, 6 jours par semaine. Et ça, c'était une victoire d'obtenir le 7e jour. 12 heures de travail par jour pour l'équivalent d'un peu plus d'un euro par jour. Et puis, au Bangladesh, on a une autre idée aussi, c'est d'aller voir dans quelles conditions, parce qu'il y a beaucoup de confections ici au Bangladesh, comment 2 millions de femmes cousent ce que nous portons. Alors il y a eu l'histoire de la convention sur les fibres qui a été revue au mois de janvier, qui menace ici cette branche de l'économie très importante pour le pays et surtout pour les femmes qui, à travers ça, peuvent espérer une certaine émancipation. C'est mis en cause par ces dispositions de l'OMC. Mais ce qui nous intéresse dans les deux cas, c'est qu'est-ce qu'il y a avant et qu'est-ce qu'il y a après. Quand vous achetez une chemise à Paris, d'où elle vient? Quand vous achetez un portable à Bordeaux, qui l'a fait? Quand vous achetez, je ne sais quoi, qui le fait? C'est passé dans quel... On ne sait plus aujourd'hui, on ne sait plus. Et une fois qu'on jette la chemise, une fois qu'on jette le portable, une fois qu'on jette ça, qu'on s'en débarrasse, allez hop, tous les trois mois on change de portable, où ça va? Où ça va? Où va, bah tiens, où vont les Clémenceaux une fois qu'on en a marre, qu'on n'en a plus besoin? Eh bien, ça vient ici. Et ici, on est dans cette partie du monde du d'où ça vient et du où ça va. Nous, on est dans la partie du monde entre les deux qui achète, qui consomme et qui jette. Ici, on récupère absolument tout, mais absolument tout. Les navires sont récupérés d'un bout à l'autre, le moindre bouton de porte, le moindre caoutchouc, tout ce que vous voudrez est récupéré sur les navires, transformé, retransformé, l'acier est laminé, réintroduit dans la fabrication, dans le bâtiment, etc. Et on le verra aussi, d'où viennent ce que nous portons, dans quelles conditions vivent ceux qui fabriquent tout ça et ceux qui démolissent ce que nous jetons. C'est pas du tout culpabilisant, bien évidemment, ce serait imbécile. C'est simplement pour essayer, comme d'hab, de comprendre comment marche cette planète. En attendant tout ça, aujourd'hui, on retourne à Marseille, dans un service de l'hôpital psychiatrique de Marseille, avec Olivia Gesbert. C'était un reportage particulièrement fort qui vous avait frappé, touché à l'époque. Donc aujourd'hui, voilà, c'est une nouvelle diffusion. Juste après les messages que voici, un petit mot pour finir à ceux qui laissent des messages pour les repères de là-bas, si j'y suis. De grâce, faites court.
Bonjour les amis de là-bas, si j'y suis. Je vous appelle pour vous donner un peu des nouvelles du repère des amis de là-bas, si j'y suis, à Pont-Saint-Esprit. Notre premier rendez-vous a eu lieu jeudi dernier. Nous nous sommes retrouvés une dizaine de personnes. C'était extrêmement sympa, très vivant, très joyeux. Nous avons eu la visite d'une petite télévision locale. Donc ça démarre bien, quoi, parfait. Voilà, j'en profite pour vous annoncer le deuxième rendez-vous qui aura lieu le jeudi 23 février à 19h30 au bar Le Concorde, allée Frédéric Mistral à Pont-Saint-Esprit dans le Gard. Voilà, bah écoute, merci de passer le message à l'antenne et à très bientôt. Voilà, au revoir.
Si vous transmettez juste à Saint-Pantaléon de l'Arche, entre Brive et Terrasson, troisième repère, là-bas si je suis, bar resto Crocodile Gourmand, rue de la Mairie, de 20h30, mardi 21 février, on vous attend. Personne verra que je suis moche, ou alors il faudra qu'il vienne voir là-bas. Au revoir.
Eh bien, bonjour, ici le repère de là-bas si j'y suis, de Tonquédec dans les Côtes d'Armor, près de Lannion. Tout ça pour vous dire que nous sommes bientôt déjà au dernier jeudi du mois. Donc, après-demain, le 23, le repère se tiendra toujours au Café de Bretagne. Tijano, route de Bullien, à Tonquédec, près de Lannion, et toujours avec autant de monde, j'espère, et dans la même bonne humeur, prêt à tout bouleverser, à tout changer dans cette société pourrie.
Je suis un peu inquiet. Est-ce que la grippe aviaire va avoir une influence sur les ventes du canard enchaîné? Je me pose quand même des questions.
C'est un petit bâtiment à deux étages, hein.
Oui.
Une des trois.
Toujours fermé les portes.
Toujours fermé à clé.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Olivia Gesbert, là-bas si j'y suis, la nuit des garde-fous.
Flight number 2, arriving from New York.
Il est quelle heure à peu près?
Là, il est 2h du matin.
C'est toutes les 2h que vous faites la ronde?
On va en faire une autre vers 5h.
Là, c'est tout calme.
Quelle île, quelle nef, quel ghetto, quel asile, quel trou, qu'est-ce qu'on fout des fous? Quelle camisole de force chimique ou CI, chambre d'isolement, ou alors assis sur un trône, une couronne royale d'électrodes sur la tête au-dessus d'un nid de coucou. La place du fou. Chaque époque, chaque société se définit par la place qu'elle alloue au fou. Jusqu'à l'âge baroque, à peu près, le fou a une existence entièrement libre. Il était en quelque sorte à la surface de la culture et il vivait d'une présence extraordinairement visible. Il y avait des fêtes des fous, il y avait tout un théâtre consacré à la folie. Le fou lui-même avait une place dans la littérature. Il y avait une iconographie de la folie. Jérôme Bosch, Bruegel. Qu'est-ce qu'on fout des fous aujourd'hui? Eh ben, on le sait, le fou est sous le tapis, caché, refoulé, occulté, évanoui. Car dans sa nuit, le fou nuit au moral des ménages. Et c'est très important, le moral des ménages. C'est capital, le moral des ménages. Et le fou désordre, et le fou traviole, et le fou pas rentable, et le fou pas gagnant. Out, le fou, vous vous souvenez ? Il a fallu qu'on trouve la tête d'une femme sur une télé. Pas dans une télé, mais sur une télé. À Pau, dans un hôpital psychiatrique, pour que soudain, on crie au fou. La psychiatrie est malade. Avec Olivia Gesberg, on a eu envie, comme beaucoup, de parler de la folie et de la psychiatrie aujourd'hui dans notre pays. Mais on va commencer par ceux qui sont les garde-fous. Et on est allé à Marseille, à l'hôpital de la Timone, dans le service du professeur Naudin, dans l'unité 3, toute une nuit entière, avec les infirmières psychiatriques et infirmiers psychiatriques aussi, qui ont bien voulu nous recevoir. Et c'est cette nuit des garde-fous qui commence.
Vol de tristesse et de rage, mangeant la merde et le cirage. Vol de terreur et d'horreur, je vomis mon foie et mon cœur. Cloîtré dans l'éternel taudis, entre ces murs que je maudis, je tourne comme une toupie. C'est pour quelques pas, l'espace horrible fond sur moi, comme un gigantesque vautour, transparent et sanglant le jour, plus noir que l'enfer dans la nuit. Eh bien oui, telle est ma folie.
Ouais, ben on va faire, si tu veux, on va faire par chambre,
la
comme
56,
ça. Voilà, ouais. Comme ça, ça conserve la confidentialité.
Alors, la 56, il est sorti donc avec femme et fille.
Oui.
Donc il s'est cassé la figure à la maison. Donc j'ai regardé, palpé, il a mal nulle part, sauf qu'il s'est fait un hématome dans le dos, donc j'ai mis de l'hémoclare. Il est couché.
D'accord.
Donc la 57, il est venu nous trouver pour nous dire qu'il était pas bien, quoi. Il avait un grand désir de vengeance contre tous les gens qui lui avaient fait du mal. Donc ça le rongeait un petit peu cet après-midi. Donc on a fait un petit entretien, on a discuté il y a une demi-heure, et puis ça allait mieux. Voilà. 58 en perme, 59, il nous a testé plusieurs fois la porte. Donc au bout d'un moment, j'ai demandé pourquoi, il m'a dit j'en ai marre. La CI, elle est tranquille. Voilà, on lui a fait un plateau un petit peu plus chargé ce soir parce qu'elle s'ennuyait, comme ça on lui a dit le ventre plein, vous dormirez mieux. 60-61, pas de nouvelles. 62 en perme. 63, il restait au lit.
Même,
voilà. 64, elle est sortie cet après-midi avec sa fille. Au retour, elle a eu le traitement anxiolytique parce qu'elle n'était pas trop bien, quoi. Paru que dehors, ça va pas. Elle est bien qu'ici.
On est le coco.
Voilà. 65... Alors elle n'était pas bien du tout en début d'après-midi, des abus auditifs, tout ça. Donc elle est venue, elle avait préparé tous ses bagages. Elle m'a dit emmenez-moi à l'isolement parce que les autres me disent que j'ai consommé des toxiques, que je me suis piquée, tout ça. Donc on a parlé un moment, ça n'allait pas après l'entretien, donc on lui a filé le traitement de sup. Et ensuite, il y a un de ses éducs qui est venu la voir. Mmh. Et bon, c'est vrai que ça allait beaucoup mieux. Là, elle a pris un bain pour se détendre. Ça va. 70, il est sorti avec son père. Mmh. Quelques allées venues, mais ça va, tranquille. Et 71, en perme, jusqu'à lundi soir.
D'accord.
Tu sais tout. Non, je vais pas chercher. Allez, bonne nuit.
Bon,
bonne nuit.
Au revoir. À
demain
soir. Ciao. Voilà, donc une petite relève habituelle. Donc voilà Gilles, qui est mon coéquipier de ce soir. Donc on va aller dans la salle de soins.
différences mentales sont-elles des maladies? Des questions qu'on ne se pose plus du tout. On s'en fout complètement. On s'en fout. Le fou, on s'en fout aujourd'hui. Le fou, c'est quelque chose qu'il faut dissimuler, qu'il faut cacher, qu'il s'agit de traiter, très souvent avec des médocs, des médicaments. Et puis, qu'on abandonne. C'est pas présentable. Voilà, on a mis ça au second plan. Refoulement du fou. Pourtant, à l'occasion de ce drame de Pau, on nous a rappelé qu'un tiers de la population du globe a souffert, souffre ou souffrira de troubles psychiatriques. On nous a rappelé qu'entre 1989 et 2000, en l'espace de 11 ans, le nombre de lits en psychiatrie a diminué de 43%. Et on a indiqué que parallèlement, la demande n'a cessé d'augmenter. Les nombres de patients suivis dans le secteur public est passé de 700 000 en 1989 à 1,2 million en 2004. 1 million 150 000 Français ont consulté au moins une fois dans l'un des 830 secteurs de psychiatrie générale en l'an 2000. Il y a 12 500 psychiatres en France, dans le public ou dans le privé, mais ceux du public sont de plus en plus découragés et vont vers le privé. Encore un chiffre, 15% de la population française, 15% de la population française présente des troubles mentaux de gravité inégale, soit 9 millions. Voilà quelque chose qui s'appelle un déni. Ces chiffres sont énormes et personne ne les croit, sauf ceux qui ont les mains dans le cambouis et qui passent leur nuit ici dans cet hôpital de la Timone à Marseille. Simone et Gilles, qu'on vient de se saisir en train de prendre leur service de nuit, après avoir pris les informations de l'équipe de jour, et qui commencent leur ronde.
C'est un monsieur qui n'a pas de traitement, mais on rentre quand même. Et c'est vrai qu'on note tous la position qu'il peut avoir. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à voir s'ils ont bougé, s'ils vont bien, quoi. Parce qu'il y a parfois des gens qui se couvrent le visage ou qui dorment complètement tournés. Donc, pas hésiter à tourner autour du patient.
Quand ils sont là, les portes ne sont pas fermées à clé, hein ?
Non, jamais.
Non, aucune porte de... Non, sauf la chambre d'isolement. Contre, on va peut-être le réveiller. Coucou. Bonsoir. Oh. C'est nous, c'est les infirmiers de nuit. C'est pour votre traitement.
Oui.
Eh bien, je voudrais que vous le preniez.
Oui, c'est mieux que l'autre fois.
Oui, voilà. Parce que hier soir, vous n'étiez pas content quand vous n'étiez pas réveillé.
C'est simplement la nuit, je n'étais pas bien.
Oui, hier soir.
C'était des cauchemars. Avec un député auquel j'ai vendu un appartement, qui était un sale con.
Et bon, ce soir, vous allez faire de plus jolis rêves?
Je n'ai pas pensé à lui.
Ben voilà, pensez à quelque chose de positif.
C'est la première fois que...
De quoi?
Je fais un cauchemar, c'est parce que vous ne m'avez pas donné mon traitement. Si vous m'aviez donné mon traitement, j'aurais pas pensé à ce con de député.
Vous dormiez profondément, donc on n'a pas voulu vous réveiller, mais on vous l'a donné après. Est-ce que vous voulez de la tisane?
Je veux bien.
Allez, on va vous en donner. Elle est un peu chaude, donc attention de ne pas vous brûler.
Oui, d'abord, je vais faire pipi.
Voilà, ça laisse le temps de qu'elle se refroidisse un petit peu. Bonne nuit.
C'est ici que tu plonges ton nez dans ton décolleté?
Non, c'est là-bas.
C'est plus tard.
Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes allé un peu vous balader?
Non, j'ai googlé.
Ah oui, c'est vrai que on a pris des mesures, c'est ça?
Coercitive.
Vous savez pourquoi? Pourvu que ça dure.
Ben oui.
Allez, on vous laisse.
Merci.
Ils ont été punis pourquoi?
Bah parce qu'ils fumaient des joints. Ben ouais, ça circule.
Voilà la fin de la tournée.
Donc la jeune fille qui est en chambre d'isolement est une patiente qu'on a reçue par le biais de la justice, c'est-à-dire qu'elle nous a été confiée, elle vient des Baumettes, où elle a fait une tentative de suicide.
Voilà, ça, c'est la chambre d'isolement.
Voilà, c'est la chambre
d'isolement. C'est-à-dire qu'il y a une porte qui est plus solide.
Voilà, une porte plus solide, un lit soudé au sol.
Une deuxième porte sur le côté.
Voilà, une deuxième porte. Quand tu as des agitations, c'est bien.
De deux côtés. Voilà. Alors, récemment, il y a eu une climatisation qui a été posée depuis l'année dernière. Mais jusqu'ici, les patients rôtissaient à 40 degrés. Et ils étaient quasiment en milieu exotique, puisqu'il y avait même les moustiques pour.
Alors, il y a eu des moments où les filles de jour disaient mais il faut prendre des consultations dermatologiques, ils ont tous des boutons et tout. Et prosaïquement, je leur explique, en fait, c'était tout le monde avait des boutons parce qu'il y avait des moustiques.
Bonsoir, mademoiselle. C'est l'infirmier de nuit. On vient vous donner votre traitement. Ouvrez les yeux deux secondes, je vous donne votre traitement et on vous laisse continuer votre nuit. Tenez. Je sais que vous n'en avez pas.
C'est la chasse d'eau.
Il peut arriver qu'elle fasse ses besoins et qu'on n'intervienne pas tout de suite. Bon.
Parce qu'elle ne peut pas tirer la chasse de l'intérieur.
Non. Bon, il y en avait qui allaient jusqu'à boire l'eau des WC, quoi. Non. Tout peut être potentiellement une arme qui peut résonner contre lui-même.
Oui, là, il n'y a rien. Il y a vraiment, c'est ça, 2-3 livres et puis pas d'affaires personnelles, voilà. On n'a pas de vêtements.
Non, il n'y a pas de vêtements, pas d'affaires personnelles. Il nous arrive de mettre les patients nus. Il nous arrive de mettre les patients en chambre d'isolement.
Nus. Sans matelas.
Sans matelas. Voilà. Et sans drap, parfois. Parce qu'on se rend compte qu'on peut faire des nœuds avec des draps et qu'on peut s'étrangler ou qu'on peut se pendre. On déchiquette le matelas, on se met la tête dans le matelas. J'ai même vu des gens tenter de s'étrangler.
Évidemment, on se rend bien compte que cette fameuse chambre d'isolement renvoie à quelque chose de carcéral. Il y a des serrures, il y a des gonds, il y a des choses qui sont assez violentes. La plupart des gens qui sont dans cette chambre d'isolement le sont contre leur gré. L'espace est très petit, c'est un lieu qui est très près de la prison, en fait, hein, et qui est vécu comme ça par les patients, souvent. Voilà,
c'est une violence qui leur est faite.
Pour supporter cette incarcération, il faut absolument des traitements très importants, quoi, en fait, parce que c'est tellement inhumain, qui est, aux yeux de beaucoup, bien pire que l'enfermement au Baumettes.
C'est aussi affreusement fort, je trouve que c'est vraiment étouffant dans cette odeur.
Oui.
Ça sent la sueur, ça sent les lignes.
Ça sent la nourriture.
Voilà, la nourriture qui stagne dans la pièce. Quoi. Oui. Ça me dérange pas, c'est des odeurs de mon service. Quoi. Mais bon, c'est vrai que quand je dois rentrer dans certaines chambres, ben pendant quelques instants, je reste un peu en apnée.
Les chambres sont très sobres en général, hein. C'est pas très gai, c'est vraiment le strict minimum à chaque fois.
Et ensuite, il y a eu quand même, le bâtiment s'est quand même pas mal dégradé. Les plantes se retrouvent couvertes de mégots de cigarettes, les revêtements de murs se retrouvent arrachés.
Ça reflète assez. Ça reflète assez un petit peu ce qu'est la maladie mentale, hein, c'est-à-dire une espèce d'investissement de la vie qui est très minimal.
C'est le monde du psychotique, c'est un monde tout à fait à part.
Les uns et les autres, quand on a commencé sur les bons souvenirs, vous dites toujours c'était. Qu'est-ce qui a évolué, on va dire, en 30 ans ?
C'est vrai qu'avant, on avait le temps. Aujourd'hui, pour un homme, travailler en psy, c'est un stress terrible.
Parce qu'il y a.
Malade, on ne sait pas qui c'est, on ne sait même pas comment il s'appelle, pourquoi il est là, et on vient juste pour lui donner un traitement, pour le regarder prendre, enfin, l'attendre qu'il prenne la douche et tout, et repartir et aller ailleurs. Quoi. Je veux dire, bon, c'est...
C'est un boulot le matin, c'est pas être infirmier quoi, de faire ça. Bon. Nous, là, les gens qui sont infirmiers depuis plus de 20 ans, ont connu les années d'or de la psychiatrie, les années où on sortait avec les patients, les années où le travail était un autre travail, c'est-à-dire c'était vraiment un travail axé sur une resocialisation, sur une espèce d'utopie, sur la réinsertion du patient, savoir qu'il a un appartement, qu'il arrive à se gérer à peu près chez lui. Pour nous, c'était des réussites et c'était assez valorisant. Aujourd'hui, cet aspect de notre travail n'existe plus.
Bon, puis maintenant, il y a autre chose aussi. Bon, un point de vue économique aussi. Tarification à l'activité, ça veut dire que telle maladie, c'est tant de durée, etc. et tout, quoi, en gros, quoi.
La société est devenue globalement plus violente. La psychiatrie n'étant pas imperméable à la société, cette violence, c'est-à-dire qu'en plus de la pathologie, il y a une espèce de, on va dire, psychopathie de la vie quotidienne.
Tu trouves qu'il y a plus de violence
qu'avant? Oui.
Est-ce que c'est parce que les patients étaient plus contenus par la camisole chimique, par les médicaments?
Il y a moins de psy, moins d'hommes, et il y a plus de malades, justement, de sociopathes. Il y a de plus en plus de gens qui n'ont rien, quoi. Évidemment, quand on n'a rien, on n'a plus rien à perdre, quoi. Il n'y a plus de tabou, de crainte, quoi que ce soit.
Ils ont un avenir incertain, ils ont un échec scolaire. Enfin, c'est tous les problèmes de la société qu'on peut reprendre. Ici, on voit arriver cette nouvelle vague de patients, ces sociopathes, parce que tout simplement, ben, il y a des carences dehors, quoi. Ils arrivent en bout de chaîne ici. Ce que j'appelle les cabossés de la vie, c'est ces gens qui sont en rupture de tout, mais qui ne présentent pas d'emblée de pathologie psychiatrique. Je pense que c'est la société qui les a fait, quoi.
Guérir ses patients, ça voudrait dire guérir la société. Et là, on se sent très impuissant parce que. Ben, quelle utopie, oui.
Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Oui. Bon, ben, si on leur proposait simplement de faire halte, c'est déjà beaucoup. Et puis après, on pourra pas tout résoudre, de toute façon. Pas résoudre les maux de la société.
Non, voilà. Non, mais comme tu dis, les cabossés de la vie, ça fait chier de les voir cabossés, quand même. Bon, leur proposer une halte, c'est bien. Mais au-delà de ça, ça fait chier d'être impuissant à rien pouvoir faire vraiment pour eux sur le fond, quoi.
Toi, Gilles, tu penses qu'il devrait y avoir un peu plus de social dans la psychiatrie, finalement?
Ah oui, ah. Oui, bien sûr. C'est un axe très important. Et moi, je dis, si on... Enfin, on sent qu'elle doit changer, cette psychiatrie, qu'elle soit plus humaine.
Ah oui. À 32 ans, elle est hospitalisée chez nous depuis plusieurs mois. Elle a été adressée pour prise en charge après plusieurs tentatives de suicide aux médicaments. Elle a été pendant près d'un mois et demi en chambre d'isolement. Et là, les troubles ont peu à peu disparu. Si on gratte un peu, on trouve quand même encore quelques idées... Moi, je qualifierais de mystique. Elle pense aussi qu'elle va mieux grâce au fait qu'elle ait pris de l'eau de Lourdes. On a eu quand même des grands délires mystiques. On avait un patient qui se prenait pour Jésus-Christ. Et donc, il avait tué ses deux grands-mères. Il disait qu'il s'était ainsi ôté les clous qu'il avait dans les mains. Bon, les attentats du 11 septembre ont déstructuré quelques patients. le tsunami aussi, dans le sens que certaines s'en sont sorties responsables. Voilà, le tsunami, on a eu un patient, c'est un jeune patient de 27 ans, qui nous disait que comme il était tout puissant, il pouvait ainsi commander aux éléments et qu'il était responsable du tsunami. On va voir Alice.
Je me rappelle avoir escaladé, avoir déplacé des meubles, avoir dansé dans la chambre, essayer de faire du karaté, de la danse, des choses complètement farfelues.
Une pantomime. En fait, comme on dit à Marseille, tu fichais la panique, quoi, pour pas dire autre chose.
Oui.
Voilà.
Oui, ça peut être. Pour vous, ça va être perçu comme foutre la panique.
Ouais.
Et moi, de mon côté, je me souviens de résistance. De résistance à. Résistance à des règles qu'on m'a imposées. Se retrouver enfermé dans une pièce, bon, jamais fait. Plaisir à qui que ce soit, bon, avoir des horaires, attendre, quémander un repas, quémander. Tout ça, à ce moment-là, pour moi, j'étais dans un monde imaginaire.
Est-ce que c'était bien ?
Oui. Ça a été très douloureux aussi. Parce que. Parce que j'ai cru, par exemple, lors d'une période, rencontrer la fille de Whitney Houston. Et pourtant, ce n'était pas la fille de Whitney Houston.
Est-ce que c'était quelqu'un d'imaginaire que tu avais dans ta tête, que tu voyais ?
Ah non, 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 je l'ai touchée. Je veux dire, je savais qu'elle existait bel et bien. C'était pas le fruit de mon imagination. Et l'entendre chanter non plus n'a pas été le fruit de mon imagination. Elle chantait quand des problèmes se posaient. Mais. C'est là où je me demande si on a été si j'ai été dans ces lieux en même temps que vous. Parce que justement, ce sont des personnes que vous n'avez pas rencontrées. Ou...
Tu prends aussi des médicaments ?
Oui, oui, oui. Ah, ils sont abrutissants. Ils peuvent ralentir la cadence. C'est ça qui est difficile à accepter. Ne pas toujours devoir. Ne pas être à la traîne et ne pas avoir besoin d'un système parallèle pour pouvoir exister.
Sommes-nous aussi différents ? Ou plutôt, qu'est-ce que la différence ? Une différence est-elle une déviance mentale ? Qu'est-ce qu'une maladie ? A-t-on le droit de priver certaines personnes de leur liberté sous prétexte qu'elles sont différentes de la norme ? Vivons-nous dans une norme ? Vivons-nous pour vivre dans une norme ? Faut-il systématiquement utiliser des modificateurs de comportement chimique qui transforment des personnes dites différentes en légumes ? Peut-on faire changer des idées reçues ? Et alors, quelles idées ? C'est des questions que se posait un festival mental d'un collectif qui s'est appelé Droit à la différence, qui s'appelle Droit à la différence mentale. Ces questions n'intéressent plus personne. Je ne sais pas ils s'en sont rendus compte, mais ça n'intéresse plus personne. C'est-à-dire que la remise en cause de la raison par le déraisonnable, l'idée que la raison n'est jamais qu'une folie qui a réussi, comme disait Castoriadis, ces histoires-là ne nous intéressent plus. Il y a être dedans ou être dehors. Dehors, c'est être exclu. Et là, le malade mental, le déviant mental, fait partie de cette exclusion. Donc, il doit être caché, il doit être dissimulé, il ne doit surtout pas gêner, encore une fois, le moral des ménages, car, répétons-le, le moral des ménages est capital. On continue dans cette nuit.
qu'on a appelé la nuit des garde-fous, à l'hôpital de la Timone à Marseille, avec Simone, infirmière psychiatrique, et Alice qui parle.
Et juste pour comprendre, dans ces murs-là, toi, tu t'y sens plutôt enfermée ou protégée ?
Je peux m'y sentir protégée, mais je peux m'y sentir étouffée aussi. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où maintenant, la barrière est de plus en plus impitoyable entre ceux qui travaillent et qui ne travaillent pas, ceux qui ont dû avoir des difficultés à un moment donné, ou qui en ont encore. C'est pénible, je pense qu'on est dans un monde où on doit tout faire vite, très vite. On doit donner le meilleur de soi-même tout de suite. On doit être efficace tout de suite dans le monde professionnel. On doit être... Voilà, on est dans une société où c'est du rentre-dedans, à la limite. Où c'est... On peut en vouloir à ces gens qui ironisent de manière trop acide et trop perfide. Et je crois que c'est là où, justement, même la sensibilité rentre en jeu. Et pour le peu que vous en ayez un bon sac à dos, bon, ben, elle va être plus vite ébranlée.
Il pleut.
Le ciel est là pour nous le rappeler. Le monde de la nuit est plus agréable, tout de même. Moins de contraintes. Oui. J'ai toujours rencontré chez le personnel soignant de nuit moins de préjugés. La nuit fait peur, et justement, quand vous parlez de ce cadre, est angoissant. Ce cadre, ces vitres qui sont sales, qui auraient besoin d'être nettoyées, cette fenêtre qu'on aura envie d'ouvrir en grand.
Toujours ces ombres qui rasent des arbres.
Oui,
ce fameux loquet qui permet pas d'ouvrir en grand.
Alors, voilà. On peut juste entre-ouvrir, même en plein été.
Et le silence aussi.
Et le silence de la nuit.
Il y a quel âge le couvre-feu ?
Il est supposé être à 10h, mais on enfreint vite les lois. Mais on nous rappelle vite à l'ordre aussi.
Merci. On va porter les traits.
Ça fera bientôt 3 années. 3 années qu'elle est internée. Oui, internée avec les fous. Avec les fous. C'est à cause de si elle est là seulement, voilà, on ne la croit pas, mais un jour ça va éclater. La vérité. Alors comme elle en a assez de pleurer, de toutes ses forces elle se met à crier. Mais qu'est-ce que je vous dis que je suis pas folle, vous m'entendez? Je suis pas folle, je suis pas folle, je suis pas folle. Et à chaque fois il y a les blouses blanches.
Si on dit qu'on peut juger de l'état d'une société à la manière dont elle traite ses fous, tu dirais que notre société, elle est dans quel état ?
C'est en piteux état. C'est difficile. De tout temps, il a été difficile d'être malade de psy. De tout temps, je me souviens, j'étais élève, il y avait une patiente qui disait « Mais il ne faut pas dire qu'on est un malade psychiatrique pour retrouver du travail. » Pourtant, à l'époque, il y en avait encore du travail. Il y avait certains médecins qui, pour envoyer les arrêts de travail auprès des employeurs, effaçaient le service de psychiatrie. Il était hospitalisé pour l'hôpital de la Timone. Je crois que ça persiste encore. Quand on me dit « je travaille en psychiatrie », on me dit « oh, vous n'avez pas peur ». On ne peut pas dire que je tremble tous les soirs. Enfin, ça dérange, ça renvoie à sa propre folie, à la folie de la société. C'est dérangeant, un fond. Ils dérangent, ils disent des vérités aussi, les fous. Ils pointent, ils s'engouffrent dans les failles de la société. C'est dérangeant, les fous. savoir le discours sur les différences.
C'est quoi ça?
L'hélicoptère. Il va sur la piste. Donc on doit faire un rapatriement. Alors il n'y a pas d'urgence à la Timone. Il va dans son service. Voilà. Ben, on disait combien les fous dérangés, combien les fous parfois. Oui, on arrive à, bien sûr, à réinsérer, parfois. Peu, mais on peut. Mais que le monde n'est pas tout à fait prêt à entendre la folie et à l'assumer.
Et à la cérémonie du café à 5h30 du matin, c'est pour les infirmiers de nuit ou pour ceux qui arrivent?
C'est pour ceux qui arrivent aussi. Parce que nous, on va commencer à en boire un, par exemple. Mais quand ils arrivent, on en boit un autre. C'est sympa quand ça sent le café.
Ceux qui arrivent à 6h pour prendre la relève, ils vont bosser jusqu'à quelle heure?
Ils vont bosser jusqu'à 13h45, je crois.
Et après, c'est 13h20.
Voilà.
Alors, l'avenir de la psychiatrie hospitalière, c'est quoi? Mais oui, à 6h moins quart. Mais oui, Simone.
On va boire le café d'abord. Une fois, il est arrivé en costume, en basket. Ouais, on est déshabillé parce que je vais le mettre en cellule. Alors il dit, faites attention, ne touchez pas à mes niquets, touchez pas à mes niquets. Vous allez me niquer le costume, ne touchez pas à mes niquets. Oh. On est du peuple, hein.
Ben oui.
Ça va?
C'est une bonne nuit? Oui, c'est une bonne nuit.
Pour les patients, elle a été tranquille.
Ouais.
56, il a dormi toute la nuit. 57, un peu perturbé quand même. En fait, ça tombe bien que je l'ai réveillé parce qu'il était en train de rêver un cauchemar sur un sénateur. Je sais pas si c'était...
Oui, il a lu Le Monde toute la journée.
D'accord. La 59, il a dormi, il est réveillé, comme vous avez pu le constater. La 67, il a dormi. Quant à la 70, ben, toujours un sommeil très léger.
Ok. Elle vous a dit, Marnia, hier, pour l'interne?
Oui, elle nous a dit. Donc, le patient est à côté. On est donc allé.
Pourquoi c'est à côté?
Il est commencé à côté.
Ben oui, il était en cellule à côté.
Ben, je suis partie à 14h hier. Les flics étaient venus le chercher.
Du café. Du café.
Ouais, je m'en parle un peu, ouais.
Bon, ben, la nuit est finie. On te dit bonsoir.
Bonjour.
Ciao les filles, à demain.
Bonne journée. C'était La Nuit des Garde-Fous, une nouvelle diffusion du reportage d'Olivia Gesbert, une nuit passée dans le service psychiatrique du professeur Naudin à l'hôpital de la Timone à Marseille, en compagnie de Simone. Merci. Toutes les informations sont disponibles sur le site de Radio France à la rubrique Émission, là-bas si j'y suis. Technique, aujourd'hui, Olivier Riotor et Michel Bézikian. Cette émission a été réalisée par Yann Chouquet et Antoine Chao, assisté de Pascal Pascariello. Chef du répondeur, Christophe Imbert. Vos messages, justement, c'est au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Et tout de suite, une page de pub.